Là, vous voyez bien un plan d'Anvers du XVIe siècle. Et on voit déjà, c'est représenté vraiment comme une très grande ville. Hein. C'est une, pour l'Europe du XVIe siècle, Anvers, c'était une très grande ville. C'était une ville de 100 000 habitants, plus ou moins. C'était un des grands villes de l'ouest et de nord-ouest de l'Europe. C'était aussi un centre commercial de premier rang hein, au XVIe siècle. Vous connaissez tous, bien sûr, l'œuvre de Fernand Braudel hein, et dans son travail sur l'économie monde à l'époque moderne, il utilise le terme « pôle urbain » pour Anvers. Hein. Il y a une série de pôles urbains dans cette économie monde, hein, commençant par Venise. Il y a une époque que Bruges et Venise, ça fait un peu les deux pôles urbains de ce système économique et financier européen. Au XVIe siècle, c'est clairement Anvers qui est le pôle urbain dans ce centre, dans ce système économique européen. Et c'est sur cette rôle et cette position qu'on va parler aujourd'hui. Fernand Braudel, donc c'est un ouvrage des années 70 qu'il a élaboré ça, mais on voit déjà dans la fin du 19e siècle chez Richard Ehrenberg, un historien allemand, hein, qui a écrit un très bon livre sur l'époque de Fugger, donc sur le système financier européen. Et là aussi, Anvers est déjà présenté comme un des grands centres financiers au XVIe siècle en Europe. Et bien sûr, aussi Henri Pirenne, historien belge, dans son histoire de la Belgique aussi, il travaille, il présente aussi le cas d'Anvers comme un cas exceptionnel, un centre capitaliste avant la lettre, avec la grande liberté, tolérance dans ses murs. Donc ça, c'est un peu dans le cadre, disons, dans une historiographie nationaliste au début du XXe siècle. Et lui aussi, il présente ce cas. La position d'Anvers dans ce centre de réseau économique de l'Europe, ça a fait bien sûr, avec sa position géographique. Hein. Anvers est situé près de la mer du Nord, à l'embouchure de l'Escaut, et c'est un des ports importants au nord-ouest de l'Europe, comme c'était avant Bruges et après Amsterdam. Donc c'est un peu dans un cadre général, dans un cadre européen, c'est un peu les mêmes port stratégique au nord-ouest de l'Europe, près du canal de la Manche, et près des centres urbains de la Flandre et l'Hollande, et aussi la vallée du Rhin. Hein. Alors, on peut parler d'Anvers comme une métropole mondiale, hein, avant la lettre, parce que le concept de la mondialisation dans l'historiographie, c'est ici, il y a une dizaine d'années, peut-être qu'on parle de mondialisation, mais là, on voit déjà au 19e siècle ou au début du 20e siècle, on utilise ce terme d'une métropole, métropole mondiale pour Anvers. Hein? Et même un contemporain comme Ludovico Guicciardini, il a aussi déjà utilisé cette idée qu'Anvers, pour sa fonction portuaire et sa fonction commerciale, elle a vraiment la position d'un centre mondial. Hein. Je n'ai pas la citation littérale, mais on peut chercher ça facilement. Donc c'est aussi dans la Bibliothèque nationale à Paris, le texte français. La fonction commerciale d'Anvers, c'est basé sur la circulation de certains produits qui étaient très importants à l'époque, au début du XVIe siècle. Hein, là, on parle, en anglais, il y a le terme « gateway », je ne sais pas, c'est en français, c'est « carrefour » peut-être, pour les draps anglais. On parlera plus tard, plus en détail, sur toutes ces composants du marché d'Anvers. le cuivre et l'argent allemand du centre de l'Europe, bien sûr les épices portugaises qui viennent au début au XVe siècle de l'ouest de l'Afrique et après au XVIe siècle de l'Inde, de l'Asie, et des marchandises espagnoles et américaines au XVIe siècle aussi. Là, on parle surtout de l'argent. Mais en plus, il y avait encore des manufactures de luxe, par exemple de l'Italie, et des exports des Pays-Bas, qui étaient une zone industrialisée avec une grande tradition d'industrie de textile, de laine, mais d'autres industries de luxe aussi. Et en plus, aussi, on a déjà parlé, ça avait aussi la fonction d'un très important marché de finances. Et ça donne accès, bien sûr, à l'Angleterre, à l'Espagne et via l'Espagne à la Méditerranée, et aussi à l'Amérique, le Brésil, le Caraïbe, et sur la route africaine au océan Indique. De l'autre côté, il faut aussi regarder par l'autre côté, dans le nord, ça donnait accès dans la mer Baltique, qui était aussi très important pour le commerce avec le blé, des toiles, de lin, le goudron. Voilà, donc des choses qui étaient très importantes pour l'expansion transatlantique, des produits qui venaient en grande masse et qui donnaient une position très importante aux marchands hollandais. Mais ça, c'est une autre histoire. On parlera dans une année, peut-être. Regardons les origines d'Anvers. Anvers, comme beaucoup d'autres villes, là vous avez la grande place d'Anvers, a des origines légendaires. Et ça commence avec une légende qui est là représentée dans une fontaine au plein centre-ville. C'est l'histoire d'un géant qui était dans l'Escaut, dans la rivière, et qui avait la mauvaise habitude de couper les mains des gens qui ne payaient pas leurs impôts ou leurs douanes dans la rivière. Et puis il y avait un héros romain, Brabo il s'appelait, comme le duché de Brabant, Brabo. Et Brabo, c'était un héros. Donc, il luttait contre le géant, il coupait sa main. Et après, on voit bien ici la représentation, il a pris la main, il la jette dans la rivière, et en hollandais, ça fait « handwerpen ». Donc, c'est « jeter la main ». Et donc, « handwerpen »,« handwerpen ». Donc, c'est une légende. Et on en parlera plus tard à la fin de la... Par contre, les vraies origines d'Anvers ont à faire naturellement avec la position géographique de cette ville. C'était une ville située là à la rivière de l'Escaut. Et ça donnait très bon accès via l'Escaut à la mer du Nord. Et comme ça, c'était communiqué de l'un côté avec toute la zone des îles de Seeland, ça donnait accès aux mers du Nord, alors à l'Angleterre, à l'Hollande, à la France. Donc c'était un port très intéressant. Et de l'autre côté, par l'intérieur, c'était assez bien protégé. Et ça donnait accès aussi aux villes du Rhin. Alors déjà, très tôt, c'était alors un centre régional pour le duché du Brabant, on voit là du XIe au XIIIe siècle. Et l'Escaut faisait aussi, ça donnait aussi sur d'autres rivières qui couvraient alors tout le duché de Brabant, et alors des petites villes intérieures, on pouvait naviguer jusqu'à Anvers, et là c'était le port maritime du Brabant. Et au début c'était alors un centre régional. Et on voit déjà, depuis le XIIIe siècle, il y avait un échange entre Cologne de l'un côté et l'Angleterre de l'autre côté. Déjà là, on peut dire qu'Anvers a pris une dimension plutôt interrégionale. elle a obtenu les droits de tape sur le sel, les arènes, et pour l'avoine, pour le duché de Brabant. Alors, ça lui donnait aussi une fonction très stratégique dans le commerce régional des Pays-Bas. Et, encore plus important, à la fin du XIIIe siècle, ça a aussi l'étape de laine anglaise. Hein. La laine anglaise, c'était aussi un produit très important en bas Moyen-Âge, parce que c'était la base l'industrie des draps. Hein, en Flandre, surtout, on utilisait beaucoup la laine anglaise. Et on voit, le centre d'Anvers est devenu assez important parce qu'au début du XIVe siècle, on a la première galère vénétienne qui arrive à Anvers et l'utilise aussi comme un des centres commerciaux de l'époque. Et alors, on voit aussi que Anvers devient un centre des foires. Hein. Vous connaissez tout le système des foires qui était au bas Moyen-Âge très important pour l'organisation du commerce interrégional. Et Anvers et Berg-op-Zoom, c'était les deux centres des foires de Brabant. Et déjà, on voit ici les visiteurs, donc c'est des Hollandais, des Zélandais de Brabançon, mais aussi des Colonnais, des Anglais, qui s'échangent ici dans cette foire. Là, on a un changement, on a un point critique dans l'évolution. En 1357, Anvers et Malines, les deux villes brabançonnes, étaient annectées par la Flandre pendant une certaine période. Et là, on parle d'une époque de tutelle brugeoise. Hein? Bruges, qui était le grand centre commercial à cette époque-là, elle voyait bien la compétition avec Anvers. Et alors, on essayait de contrôler les foires d'Anvers et de Berg-op-Zoom par Bruges. Par contre, dans cette époque-là, les marchands brugeois qui se sont déplacés à Anvers, ont attrahi des marchands qui étaient présents à Bruges à la même époque. Donc alors, il y avait aussi les marchands portugais, italiens, qui, à ce moment-là aussi, se sont déplacés jusqu'à Anvers. Donc, sans vouloir, les brugeois ont aidé un peu partir à Anvers comme un centre international. Et on voit alors qu'au début du XVe siècle, hein, on parle déjà d'Anvers vraiment dans des superlatifs. On a là un texte de Pedro Tafur qui dit « Il n'y a aucun doute que quelqu'un qui veut voir tout le monde ou une grande partie, il peut le faire ici. Ici, on peut voir les choses les plus belles du monde et les plus grandes richesses. » Alors, c'est déjà un grand centre international, même si ce n'est pas à Bruges, hein, parce que Bruges, c'était encore le grand centre au nord-ouest de l'Europe, mais c'était déjà assez important. Alors, à la fin du 15e siècle, Bruges commence à perdre importance en relation avec Anvers. Et ça a fait... Il y a plusieurs explications pour ça. Je ne vais pas aller dans le détail. Ce n'est pas l'ensablement du Swin ou ce qu'on racontait. Ça a beaucoup à faire avec la politique. Hein. Et là, il y a le personnage important du moment, Maximilien d'Autriche, qui est venu aux Pays-Bas comme mari de Bourgogne. Et après, comme gouvernant des Pays-Bas. Et là, il y avait une révolte des villes flamandes contre cette figure de Maximilien qui avait cette idée de centralisation de l'État. Et Maximilien, qui avait beaucoup de problèmes, en fait, dans cette révolte, il prend sa revanche et il ordonne aux marchands internationaux à Bruges qui dit... Au lieu de rester à Bruges, aller à la ville d'Anvers, Anvers qui est une ville loyale Et là, vous trouvez un marché beaucoup plus sûr et beaucoup plus acceptable, ou plus pratique. Alors, il a aussi donné beaucoup de privilèges commerciaux à Anvers. Et même si ce n'était pas définitif, parce qu'après la révolte, il y avait d'autres marchands qui sont rentrés à Bruges, mais c'était aussi vraiment un moment tournant que Anvers a obtenu une dimension, et avec ses privilèges aussi des avantages comparatifs, est devenu le vrai centre commercial des Pays-Bas. Bon, regardons dans cette première époque de centre commercial d'Anvers, on voit là une vue sur le port d'Anvers au début du XVIe siècle, et les marchands portugais jouaient vraiment un très grand rôle au début du XVIe siècle pour l'essor d'Anvers. Les Portugais étaient déjà présents à Anvers depuis la deuxième moitié du XVe siècle. C'était des distributeurs de produits portugais, mais aussi africains. Et à la fin du XVe siècle, en 1499, le facteur portugais s'installe à Anvers pour concentrer ici les marchandises portugaises sur le marché de l'Europe du Nord. Et c'est juste là, quelques ans après, ou deux ans après, que les premiers navires portugais qui étaient en Inde, à Calicut, sont rentrés et on a distribué les marchandises, pas seulement à Lisbonne, mais aussi à Anvers, parce qu'à Anvers, on verra bien, c'était un marché très bien situé pour accéder à l'Allemagne et aux Pays-Bas, bien sûr. Donc, en 1501, c'est le premier navire avec épices indiennes qui arrive à Anvers. Et on voit aussi dans plusieurs textes de l'époque, il y avait beaucoup d'aventuriers, pas seulement portugais, mais aussi allemands et flamands qui se sont aventurés en Inde. Et c'est eux qui ont pris le bateau avant d'Anvers. Ils sont allés à Lisbonne et là, ils ont continué leur voyage à l'Inde. Alors, c'était vraiment un lien très fort entre le Portugal, Lisbonne et Anvers qu'on a. Ça, c'est aussi un des plus fameux personnages du XVIe siècle, Herr Jakob Fugger, un grand marchand financier, banquier allemand de Augsbourg. On voit bien dans ce dessin-là, hein, c'est les différents marchés qu'il visite, donc Milan, Innsbruck, Nuremberg, Anvers, donc Antorf, Lisbonne, Cracovie, Budapest, Venise. Donc c'est un peu le réseau financier des Fugger au XVIe siècle. Les Allemands, c'était des marchands, bien sûr, assez importants. Mais surtout au XVe siècle, grâce aux mines de cuivre et d'argent, ils ont pris vraiment une importance très grande comme fournisseurs de métaux précieux pour toute l'Europe. Qu'en cette époque-là, ils ont eu presque monopole sur le cuivre et l'argent. Et alors, c'était aussi des marchands qui ont prêté d'argent aux rois, aux princes européens. Alors, il se produit un lien aussi très fort avec les Habsbourg, déjà les Habsbourg autrichiens au XVe siècle, mais après aussi avec Charles Quint, qui vraiment, on dit, a pu acheter son titre d'empereur allemand grâce à l'argent des Fugger. Hein. Et les Allemands, ils étaient présents ici à Anvers aussi parce que c'était un marché très pratique pour eux pour être en contact avec les Portugais, avec leurs épices qu'ils voulaient aussi marchandiser. Et de l'autre côté, les Portugais avaient besoin aussi beaucoup de métaux précieux pour leur commerce en Afrique et en Inde. Et on va aussi, dans les premières années des voyages portugais à l'Inde, on voit aussi des marchands allemands qui participent eux-mêmes au premier voyage, au voyage de 1505 de Almeida. Il y a trois navires allemands, en fait, qui participent dans l'armada portugaise en Inde. On a des très belles textes aussi qui racontent ce voyage-là. Un autre groupe important, c'est les Anglais. On est ici, là, dans l'ancienne bourse. Ça s'appelle l'ancienne bourse ou la bourse anglaise. C'était le bâtiment où les marchands anglais se sont rencontrés au 15e siècle, au début du 16e siècle aussi. Ça existe encore. Et là, il y a un point très important, que l'économie anglaise au 14e siècle a changé fondamentalement. Hein? Avant, c'était surtout un producteur de laine pour l'industrie flamande. Et après, peu à peu, les Anglais, elles ont pris l'habitude de produire eux-mêmes les draps. Et là, il y a eu de grands problèmes pour les producteurs flamands. Il y a eu une grande lutte politique aussi dans cette époque-là. Et les Flamands, ils ont banni les draps anglais sur le marché flamand. Alors, si on connaît la géographie politique des Pays-Bas, Anvers n'était pas situé en Flandre. Hein, c'était au duché de Brabant. Alors, les bancs flamands sur le drap anglais n'existait pas à Anvers. À Anvers, on pouvait bien exporter le drap anglais. Alors, les Anglais, ils se sont transférés à Anvers et ils ont là eu leur marché des draps. Et il y avait l'organisation de Merchant Adventurers, qui était l'organisme de marchands anglais, qui se sont dédiqués à vendre leurs produits dans tous les marchés importants de l'Europe. Et ils se sont installés à Anvers en 1421. Au XVIe siècle, on voit que Anvers, c'est un centre important pour les Anglais, mais ils commencent aussi à trouver d'autres marchés comme en Méditerranée, en Levant, en Moscovie, et plus tard, vers 1600, aussi aux Indes. Alors, c'est un deuxième pilier, on peut dire, pour Anvers, les Anglais, les Portugais et puis les Allemands. Hein, c'est les trois piliers du début de l'essor d'Anvers. Bien sûr, il y en avait d'autres. Hein, ce n'était pas limité aux trois piliers du début. On voit qu'il y avait toute une représentation internationale des marchands, des Italiens, des Français, des Hollandais, des Hanséatiques, qui souvent étaient organisés en nations, hein, en groupes nationaux, on pourrait dire, et qui se rencontrent depuis 1531 dans un nouveau bâtiment, hein, la Bourse. Donc là, on a le bâtiment de la Bourse. La Bourse, comme institution, comme rencontre, ça existait déjà avant en Italie et en Bruges. Mais là, il y a un bâtiment proprement dit qui était payé par la commune et où on s'est trouvé pour faire les échanges commerciaux et financiers. Et en deuxième moitié du XVIe siècle, on voit qu'après avoir dominé par des marchands internationaux et étrangers, le rôle des marchands flamands devient de plus en plus important. Ils ont commencé à participer modestement dans ces affaires internationales et on trouve de plus en plus aussi des firmes flamandes qui participent dans ce marché international. À part d'être un marché des produits, des marchandises. Anvers aussi était un marché financier de grande importance. La présence des banquiers et des commerçants faisait qu'on pouvait ici avoir du crédit commercial, mais aussi public. Ça veut dire pas seulement les commerçants ou les industriels ont pris des crédits, mais aussi les communes, aussi les princes européens sont venus prêter l'argent chez les marchands anversois. Il y avait deux types de prêts. De l'un côté, c'était les prêts, disons, tout à fait normal, à court terme. Alors, on prête de l'argent et après un an, on essaye de repayer. Et il y avait le grand problème, ça faisait des intérêts très hauts. Donc, tu pouvais bien y arriver à des intérêts entre 15 et 20% par an, parce que c'était à très court terme, et l'idée, c'était pas laisser l'argent très longtemps là. Alors, les princes et aussi les communes ont essayé de trouver moyen d'avoir une dette consolidée, une dette à long terme. Et là, ça se faisait depuis déjà le XIVe siècle, avec une institution, une technique qui s'appelle la vente de rente. Donc, c'est plus ou moins, c'est comme une rente foncière que tu as sur un bien. Tu pouvais aussi vendre une rente en échange d'une somme d'argent. Alors, tu repays une rente annuelle. C'est pas déclaré comme un prêt, c'est pas déclaré comme un intérêt, c'est une rente que tu achetais, que tu vendais. Et normalement, il y avait deux formes de rente. De l'un côté, des rentes viagères qui durent une vie jusqu'à la mort du personnage, ou bien une rente héréditaire ou éternelle qui était. En théorie, ça durait toujours. On pouvait, depuis le 15e siècle, on pouvait racheter la rente aussi. Alors, ça ne veut pas dire, une fois que tu as vendu une rente, tu dois payer en éternité, mais si tu ne voulais pas racheter, tu pouvais continuer à payer. Et c'était des intérêts beaucoup plus bas. C'était des intérêts à 6,5%. Alors, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir des rentes et pas des prêts à très haut intérêt. Et sur ce mécanisme de rente, les princes ont aussi essayé de profiter du crédit de la ville, des grandes villes comme Anvers, qui étaient très riches et avaient un très bon crédit. Alors, des princes comme Charles Quint, il a aussi essayé de vendre des rentes sur le corps d'Anvers. C'est comme ça, Anvers a vendu des rentes, le prince, en théorie, il a payé les rentes d'Anvers. Le grand risque, par contre, était que le prince ne payait pas toujours. De temps en temps, il dit, écoutez, je ne paye pas, mais vous ne payez pas vos impôts pour l'année prochaine. Et comme ça, la ville aussi, elle prend en charge une partie de la dette princière, ce qui, de l'un côté, est racheté par des privilèges, pas de très bonnes relations avec le prince. De l'autre côté, c'est une charge très lourde sur les finances publiques. Voyons l'industrie, parce que Anvers n'était pas tout seulement un centre de commerce. Il y avait beaucoup d'artisans dans la finissant des textiles crus qui étaient importés par l'Angleterre, puis ils ont été teints à Anvers et finis, et revendus comme produits de luxe, ou bien aussi de production de vêtements et accessoires, d'autres produits de luxe comme la verrerie, des joyaux, la pelleterie, donc toute une gamme, un centre vraiment de commerce de luxe. Et ça a attiré beaucoup d'artisans, pas seulement des Pays-Bas, mais même de l'Italie, de l'Espagne, de la France, qui se sont installés à Anvers parce que ça, c'était l'endroit où on pouvait faire des affaires au XVIe siècle. Regardons sur d'autres aspects moins économiques, même si ça a aussi un aspect économique, parce qu'Anvers avait aussi un marché d'art très important. Hein. Et à l'époque, l'art était vu comme un métier en plus. Hein. C'était un produit de luxe qu'on fabriquait à Anvers et on vendait. Aujourd'hui, l'art a obtenu une dimension un peu spéciale, mais là, c'était des producteurs de produits d'art. Donc, il y a eu aussi un grand nombre d'artistes et quelques-uns entre eux, comme Bruegel, Metsys, Jordaens, plus tard Rubens, Van Dyck, c'est devenu vraiment des très grands artistes de l'époque. Et on parle vraiment d'une école anversoise au XVIe et XVIIe siècle, avec une multitude de grands spécialistes en différents types d'art, qui collaboraient dans des grands ateliers. Donc, il y avait des systèmes de collaboration, qui avait un collègue qui faisait les arbres, puis on passait ça à l'autre qui a fait les perroquets, et puis le dernier... Peut-être le maître Rubens lui-même, il fait deux ou trois éléments en plus et il le vend comme un Rubens. Hein. Donc, c'était très efficace et c'est très intéressant aujourd'hui pour les spécialistes d'histoire d'art. Et pour la vente des peintures, la ville installait tout un édifice, un marché, et une halle de peinture qui s'appelait le Schildersband. Là, on voit aussi que la ville même, pour fomenter l'activité commerciale, elle investissait dans l'infrastructure, dans des différents aspects. Encore un autre aspect important, hein, encore un secteur économique, mais beaucoup plus qu'économique seulement, c'était l'imprimerie. Il y avait plusieurs maisons d'imprimerie. La plus connue, c'était celle de Christophe Plantin. Hein, Plantin qui est venu du nord de la France, en fait. Il est immigré à Anvers parce qu'il a vu là, c'était vraiment le marché le plus intéressant. Et Plantin, il est devenu fameux pour ses éditions de haute qualité. Hein, c'était des éditions scientifiques, géographiques, philosophiques, religieuses, et beaucoup d'auteurs sont allés chez Plantin quand ils voulaient vraiment un produit de très haute gamme, avec des illustrations très bien faites, de haute qualité. Et comme ça, on voyait que la maison de Plantin, qui existe encore, hein, c'est un patrimoine de l'UNESCO, c'est vraiment, ça vaut la peine de le voir. C'est devenu aussi un très grand centre intellectuel. Parce que beaucoup des auteurs, ils ont eu des relations amicales avec Plantin, ont passé des semaines, des mois avec lui, et ils ont échangé d'informations en Europe, et c'est devenu aussi un centre humaniste assez important, et la maison de Plantin même était un lieu de rencontre pour les intellectuels de l'époque. Et comme ça, c'est devenu aussi un centre d'information. Dans l'historiographie récente économique, on parle beaucoup de l'un côté des facteurs, les frais de transaction dans l'économie. Hein. Alors, l'information est un des facteurs très importants pour un centre économique, pour avoir accès à l'information récente sur les marchés. Et ça offre une possibilité très bonne pour être à l'heure des derniers mouvements n'importe où en Europe et dans le monde. Au XVIIe siècle, hein, on voit comme le marché a changé beaucoup et fragmenté. Et là, la maison de Plantin et après Moretus est devenue un spécialiste aussi de production de livres pour le marché hispanique et aussi américain. Hein, on voit beaucoup de productions Moretus au aux Amériques espagnoles qui sont un des produits d'export importants au XVIIe siècle. Là. Et une spécialisation qui est très prochement liée avec l'imprimerie, c'était la cartographie. La cartographie au XVIe siècle, c'était aussi un secteur où il y avait beaucoup de progrès. Et il y avait à Anvers le moyen de produire des cartes de très grande qualité. Il y avait surtout deux cartographes d'un renombre international, hein, de leur côté Gérard Mercator, qui a été un des premiers producteurs d'un atlas universel, on pourrait dire, Atlas Sive Cosmographicae Meditationes de Fabrica Mundi et Fabrica Figura. Mais aussi, on connaît encore la projection Mercator. C'est un des projections cartographiques les plus fréquentes pendant l'époque moderne. Elles sont utilisées dans certains aspects encore aujourd'hui. Et le deuxième grand cartographe anversois, c'était Abraham Ortelius, avec aussi son Atlas Theatrum Orbis Terrarum. Et Ortelius, il est devenu cartographe officiel de Philippe II en 1575. Et ça lui a donné la possibilité, après 1580, d'être en contact avec beaucoup de cartographes, non seulement espagnols, mais aussi portugais. Ce qui donne que les cartes d'Ortelius sont des premières reproductions des plans portugais pour le grand public. Donc ça, c'était aussi un centre de cartographie très important. Alors, avec tous ces mouvements économiques, intellectuels et artistiques, Anvers est une ville très dynamique. On a déjà dit que c'était une ville très grande. Et on voit ici sur le plan, c'était une ville où il y a eu aussi une politique d'urbanisation très forte. Hein. On a eu des nouveaux projets d'urbanisation sur la ville neuve, la Neustadt. C'est cette partie-là qui n'était pas urbanisée avant 1550. Mais quand on a construit les nouvelles fortifications, on a intégré un nouveau quartier et il y avait un monsieur qui a eu le monopole de terrain dans cette zone et aussi le monopole de production de bière à Anvers. Alors, il a pu vendre les brasseries dans la Neustadt à prix monopole. Hein. Donc, il est devenu très, très riche. C'était M. van Schombeke. Là, on pourrait aussi raconter toute une histoire là-dessus. Il y avait d'autres projets ici qui étaient faits dans la moitié du XVIe siècle. Mais la ville a aussi investi beaucoup sur l'infrastructure commerciale. Hein, la bourse, la maison des Hanse, des Osterling, la maison de Hesse, l'hôtel de ville. On peut voir ça sur le plan. Hein, donc, il y a la maison de la Hanse, c'était par ici, dans la Neustadt. Aujourd'hui, on a ici le musée à Lescaut, un très bel bâtiment musée qu'on a fait ici. Puis il y a le Hessehaus, c'était une maison commerciale pour les transporteurs du centre d'Allemagne, là, de Hesse. Il y a bien sûr l'hôtel de ville. Hein, hôtel de ville, un des grands bâtiments de Renaissance à Anvers. Aussi tout un programme architectural. Et encore, très important, il y a les fortifications elles-mêmes. Et ça, c'était le projet le plus cher qu'on a fait à Anvers, les fortifications espagnoles qui existaient jusqu'au 19e siècle. Et maintenant, récemment, on a eu des travaux pour faire un garage souterrain. On a trouvé une partie des forteresses espagnoles qui sont maintenant intégrées dans le parking. On peut le voir comme un musée. En 1542, des troupes de Gueldre ont attaqué la ville Donc, c'était l'époque où Charles Quint était en train d'unifier les Pays-Bas, d'acquérir plusieurs territoires. Et Gelre, c'était le point dur. Gelre a résisté jusqu'à la moitié du XVIe siècle. Ils l'ont attaqué en Anvers. Et la Virène, Marie d'Angrois, elle a, en Hongrie, elle a dit que c'est vraiment un danger pour notre centre commercial et financier plus important. Il faut faire quelque chose. Alors, il faut construire de nouvelles fortifications. Et ce n'était pas avec l'argent public qu'on l'a fait. Ce n'était pas avec l'argent de Castille ou même du Brabant. C'était la ville même qui devait payer ses fortifications. Donc, ça coûtait à l'époque 2 millions de florins, qui était beaucoup d'argent, beaucoup, beaucoup d'argent même. Et on voit que la dette communale qu'à Anvers, c'est la... fait à cette instance a resté à hypothéquer les finances publiques d'Anvers jusqu'au 19e siècle. Elle n'a jamais reçu de payer cette dette de 1542 parce qu'il y a eu toujours de nouvelles dettes en plus et ça c'était devenu vraiment une charge très très forte pour la ville d'Anvers. Par contre, vous voyez bien, elle a eu de très belles fortifications et ça a aussi aidé, bien sûr, de se défendre. Bon, tout se termine. Il y a des problèmes. Après 1560, la résistance contre la politique de centralisation de Philippe II augmente. Il y a beaucoup de problèmes, aussi religieux. Il y a tout... un centre de réformation de calvinisme à Anvers. Et en 1666, il y a un grand moment d'iconoclasme. Alors la révolte commence, alors la couronne envoie un nouveau homme fort, le duc d'Albe. Le duc d'Albe, qui était déjà renommé en Espagne, un grand homme de guerre, il vient à Anvers, 1567, il construit une citadelle très forte pour dominer et contrôler la ville. Les choses vont hors de contrôle en 1576, quand la révolte religieuse et politique des Pays-Bas commence, et il y a un incident, la furie espagnole, ça s'appelle, on voit ici la représentation, donc c'était tragique ce qui s'est passé là, la furie espagnole, et à cause de ça, la révolte Anvers est tombée dans les mains des calvinistes, et il y a eu une époque de régime calviniste jusqu'à 1585. En 1685, les Espagnols, Alexandre Farnèse, reconquête Anvers avec un siège assez apparateux. Il réussit de récupérer Anvers pour la couronne espagnole. Par contre, les révolutionnaires, les indépendantistes, ils ont le territoire de l'embouchure de l'Escaut en leur contrôle. Alors, ils profitent pour fermer l'accès d'Anvers à la mer ouverte. C'est la fameuse fermeture de l'Escaut. En fait, la clôture effective durait seulement quelques années. C'était 3 ans que l'Escaut était effectivement fermé. Après, c'était plutôt une barrière fiscale. Il fallait... changer les marchandises de bateau, il fallait payer des douanes, mais ça faisait, bien sûr, que ça devenait très cher pour transporter des marchandises jusqu'à Anvers. Alors, beaucoup de marchands qui n'étaient pas anversois ou qui avaient d'autres plans se sont déplacés, se sont allés à Hambourg, à Cologne, à Amsterdam, à Middelburg, et ils ne sont pas restés à Anvers. Les provinces de Zeeland, ils ont eu aussi l'idée de faire payer les marchands des licences de guerre. Ça veut dire, c'est c'était un type de douane, un droit de passage qu'il fallait payer si tu voulais passer à l'autre côté de la frontière. Et c'était un très bon engrais pour les Zélandais. Alors, les autorités espagnoles ont dit, nous aussi, on fait la même chose. Alors, les marchands ont dû payer deux fois des licences, des licences zélandaises et des licences espagnoles. Une fois que la guerre était finie, en 1648, les Zélandais ont laissé passer leur licence parce qu'il n'y avait plus de guerre. Par contre, la couronne espagnole avait besoin de beaucoup d'argent parce que c'était des temps très difficiles pour l'Empire espagnol. Alors, ils ont continué avec les licences. C'était un droit de passage qui est devenu tellement important pour les ingrédients financiers de l'État qu'ils ont continué. Et là, on voit que la ville d'Anvers, elle utilise ses droits politiques pour lutter contre ses licences de guerre. Et jusqu'à 1680, on voit qu'il y a un boycott des impôts par la ville d'Anvers. Elle dit les droits de licence ne sont pas constitutionnels, c'est contre nos privilèges et on refuse de payer nos impôts si ce n'est pas limité ou même quitté de tout. Par contre, les impôts d'Anvers étaient moins grands que les impôts de droits des entrées, alors c'est resté jusqu'à 1680. Alors, avec la révolte et avec la fermeture de Lescaut, l'époque d'or d'Anvers s'était terminée. Anvers n'était plus le grand centre international que c'était avant, mais ce n'était pas la fin de la ville d'Anvers et le centre commercial. Le commerce a récupéré après 1600. On voit, par exemple, vers 1600, il y a encore 1500 navires par an qui passent l'Escaut. C'est surtout le commerce en transit qui est en déclin. Et on parle là parce qu'il y avait encore beaucoup de marchands internationaux présents qui décidaient ou qui faisaient des échanges, mais sans transporter les marchandises juste à Anvers. Alors, on achetait des produits en Espagne, on les envoyait en Angleterre ou on achetait en Portugal et envoyait en Allemagne, mais sans passer par Anvers même. Et on parle là d'un centre de disposition à ce moment-là. Surtout dans l'époque de la trêve des 12 ans, entre 1609 et 1621, il y avait une récupération assez forte et on voit un changement un peu dans le focus dans le marché anversois. Là, c'est surtout le monde ibérique qui devient le centre du commerce anversois. Une fois que la guerre d'indépendance, la guerre de 80 ans est finie, on pourrait dire qu'Anvers pourrait récupérer sa position. Mais à ce moment-là, l'indépendance des Pays-Bas du Nord a déjà changé trop la situation. C'est maintenant en Amsterdam qui devient le grand centre international, le pôle urbain international, et plus Anvers. Et Anvers n'a jamais récupéré cette position. Et on voit, surtout après 1680 à 48, un fort déclin économique d'Anvers qui a duré jusqu'au 19e siècle quand le port d'Anvers a récupéré sa fonction internationale. Un peu de recherche personnelle que je fais sur Anvers. On a déjà parlé des deux sujets qui m'ont occupé pendant les dernières années. Et surtout, la question des relations d'Anvers avec son arrière-pays, c'était le début de mon intérêt sur Anvers. J'ai étudié à Vienne, en Autriche. J'ai fait mes études là à la fin des années 80. Et j'ai eu l'idée glorieuse de faire quelque chose sur le plan de l'économie monde brodélienne. Hein. J'ai dit, je vais faire une étude de cas sur Anvers. Et j'ai regardé et je voulais savoir comment c'était la relation du pôle urbain dans le centre mondial sur son économie régionale. Hein. Comment ça se manifeste, cette position centrale d'une ville comme Anvers. Alors, j'ai fait ma maîtrise sur ça, ça s'est très bien passé, il faut dire. J'ai eu l'occasion de faire une thèse doctorale, alors je me suis spécialisé, concentré sur encore une question plus spécifique, et ça veut dire l'influence du croissement d'Anvers sur l'économie rurale de la région anversoise. Et on peut situer ça aussi dans un cadre historiographique plus général. Je ne sais pas si vous êtes familier avec la question de la transition du féodalisme au capitalisme. Il y a eu des débats sur ça. Il y a une école de marxistes, un auteur, Robert Brenner, qui a écrit que c'était toute une question des relations de pouvoir et des relations de propriété qui ont déterminé que, par exemple, l'Angleterre a eu un parcours totalement différent que la France. Il a dit, le marché et le commerce, c'était pas le plus important, c'était le pouvoir, les relations de pouvoir et de propriété qui étaient décisives. Donc ça, c'était une école. De l'autre école, bien sûr, il y avait une école plutôt commercialiste, donc smithienne. Hein. On dit, si tu as du capitalisme marchand, comme à Anvers, ça change les relations économiques aussi dans l'économie rurale. Hein. Et donc, je me suis dit, en étudiant le cas d'Anvers, qui était l'exemple d'une ville, une boom town, par excellence au XVIe siècle, si on ne voit pas l'effet sur le capital urbain et marchand, sur l'économie rurale ici, on ne le trouve jamais, hein, ou nulle part. Alors ça, c'était le début de cette recherche. Et j'ai essayé de regarder sur quatre aspects différents. De l'un côté, la démographie, c'était le premier indicateur, et on voyait bien qu'au XVIe siècle, les campagnes près d'Anvers ont eu une forte croissance démographique en comparaison aussi avec le reste des Pays-Bas. Et on voit vraiment là une concentration de la population, ça veut dire qu'il y avait probablement aussi de migration dans la campagne anversoise. Une deuxième question, c'était le marché des produits agricoles à Anvers. Il faut imaginer une ville de 100 000 habitants qui se crée tout de suite. Il y a une croissance très forte, parce qu'au début du XVIe siècle, la ville était beaucoup plus petite, 25 000 habitants, et en 50 ans, la ville explose, hein. Alors, il faut dire, ça doit avoir un très grand impact sur le marché des nourritures dans la ville. Alors, on devrait voir une réaction du système agraire dans les alentours d'Anvers. Il faut bien sûr aussi savoir que les denrées n'étaient pas tous produits sur place, hein. On sait très bien du marché de blé qui vient à certains moments, au XVe, XVIe siècle, aussi du nord de la France, de l'Artois, de Picardie, mais aussi du Baltique par Amsterdam. Hein, c'est important. Alors, il y a aussi, ça complique les choses, bien sûr, parce qu'il y a une compétition entre le blé importé et le blé local. Et ça aussi avec d'autres produits. Mais on voit des changements ou des réactions. Il y a de l'un côté de la spécialisation en horticulture proche de la ville, d'engraissement de bétail, hein, de bétail qui est devenu, qui est, qu'on a transporté du nord de l'Allemagne, de l'Hollande, de Frissonie, jusqu'à Anvers, mais dans les campagnes d'Anvers, on les laissait grossir pour après pouvoir les consommer. Par contre, ce qu'on a vu, l'agriculture traditionnelle, la production de céréales, restait encore le secteur le plus important. Par contre, on voit qu'on a essayé dans toute manière d'obtenir des résultats plus meilleurs, hein, une productivité plus haute. Par exemple, d'essayer d'avoir deux semences dans une année ou consécutif, au lieu d'avoir un système triennal, on essaie de combiner la production de blé avec des autres grains et comme ça avoir plus de production encore. Et ça, combiné avec des fertilisations intensives. Puis, ce qu'on a vu aussi, le travail non agraire, hein, tout type de travail dans la campagne, comme des services de transport, de production des briques pour la ville, des brasseries aussi pour le marché urbain, qui se sont situés dans les villages autour d'Anvers, et qui ont donné aussi ici à des engrais aux personnes, les habitants. Et finalement, pour en retourner à l'idée de la propriété foncière, cette question des relations de pouvoir, j'ai aussi regardé la question de l'investissement des propriétés foncières dans les terrains ruraux. Et là, on voit surtout un changement avec l'investissement de capital urbain dans la campagne. On arrive à un système d'affermage, hein, donc des contrats de louer pendant 6 ans, par exemple, qui ont supplanté le système traditionnel. Ça ne veut pas dire que le système féodal est disparu soudain, mais il y a deux systèmes superposés. Il y a le système traditionnel, qu'on paye encore les rentes foncières, mais en plus, on paye un loyer aux propriétaires. Donc, c'est un peu les changements ruraux que j'ai pu constater comme conséquence de l'expansion d'Anvers. On voit très bien que le capital urbain est là bien d'influence, hein, mais c'est très difficile de dire que là, on peut parler d'une agriculture capitaliste au XVIe siècle. Hein. Mais on voit quand même les chemins que le capital a trouvé de changer l'économie rurale. Et finalement, une question aussi qu'on a travaillé dessus, c'est la question, et ça va, je crois, très bien dans le cadre du séminaire plus en général, c'est la question entre pouvoir financier et capital économique et l'État. On a affaire ici au XVIe et XVIIe siècle avec ce qu'on appelle une monarchie composée, avec beaucoup de territoires, avec une formation d'État atypique, il faut dire, différente avec l'État national. Et il y a cette question de la formation d'État, c'est la question de accumulation de pouvoir dans l'État qui est basée, bien sûr, sur la question d'argent. Alors, Giovanni Arrighi, dans un de ses bouquins, il a parlé dans le problème, la relation entre des centres d'accumulation de capital, comme Anvers, donc les grands centres commerciaux qui étaient des centres d'accumulation de capital, et les centres de pouvoir, parce qu'ils ont eu une très grande dépendance mutuelle. Et ça se voit très bien dans le cas d'Anvers. Pour Charles Quint, Anvers, c'était vraiment un endroit crucial parce que le marchand et l'argent, le marché financier d'Anvers, surtout les premières décennies du 16e siècle, était crucial pour ses projets politiques. Alors, pour avoir ce marché en fonction, il cède des privilèges. Il protège le commerce à Anvers, il ferme les yeux pour les nouveaux chrétiens, pour les anabaptistes. Bon, les anabaptistes, non. On n'a pas fermé les yeux pour eux, mais les luthériens et les calvinistes, oui, on a fermé les yeux. On les a fait faire parce que l'argent, c'est crucial hein, pour fonctionner comme système. De l'autre côté, on voit que comme le marché financier est tellement important et les finances de l'État sont tellement mesclées avec les finances de la ville, il y a un très fort contrôle sur les finances communales. Et là, on a fait une comparaison entre Anvers et Amsterdam. Et Amsterdam, c'est totalement différent. Au XVIe siècle, Amsterdam, c'est une ville secondaire encore. Et la couronne ne se mêle pas du tout dans les finances d'Amsterdam. Amsterdam paie ses parties, ses impôts, mais pour le reste, c'est beaucoup plus autonome parce que c'est plutôt à la périphérie du système espagnol. Par contre, Anvers, avec sa grande importance, hein, on pourrait dire, si elle a beaucoup de pouvoir, alors elle a aussi beaucoup d'autonomie. Dans ce point-là, on voit que ce n'est pas le cas. C'est justement l'importance stratégique d'Anvers, là, fait que le prince interfère très fortement aussi dans les finances de la ville. Et au XVIIe siècle, on voit qu'Anvers, elle a perdu sa importance stratégique ou son pouvoir économique de leur côté. C'est quand même le plus grand centre de Flandre, hein, encore. Mais là, pour défendre ses droits, par exemple dans la question des droits de licence entre Flandre et l'Hollande, elle utilise des moyens légaux, ses privilèges traditionnels pour avoir sa politique de libre commerce. C'est un peu l'idée d'Anvers, le libre commerce, ça c'est le système de base, mais au XVIIe siècle, on commence à avoir une politique plutôt mercantiliste aussi en Flandre. Et Anvers, elle essaie avec tout moyen légal et politique d'insister sur ses droits traditionnels, ses privilèges de libre commerce pour continuer avec ce système traditionnel au XVIe siècle. On termine la session, ou on termine ma partie. Anvers est resté dans cette situation très précaire jusqu'au 19e siècle, là avec la fondation de l'État belge, déjà avant, dans l'occupation française, après la Révolution française. L'ESCO est ouvert de nouveau. Il y avait une période que la Belgique et l'Hollande étaient territoires français. Donc, la frontière est tombée et après, on a laissé l'ESCO ouvert. C'était encore accessible. Et surtout, dans le cadre de la industrialisation du 19e siècle, Anvers est de nouveau devenu un port international. Et au 20e et 20e siècle, au 20e siècle, Anvers est un des plus grands ports encore en Europe et aussi une ville avec plus ou moins 600 000 habitants. Donc c'est quand même une grande ville industrielle et commerciale en Europe. Et merci pour votre attention.
Et je crois que c'est maintenant le moment de poser des questions.